Bonjour Benjamin Saint-Huile.
Bonjour.
Les grandes manœuvres sont en cours autour de la proposition de loi de votre groupe visant à abroger la mesure phare de la réforme des retraites, à savoir le report de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Le texte doit être examiné demain en commission des affaires sociales et la majorité chercherait une majorité pour faire retirer l'article 1 de votre proposition de loi, précisément donc celui qui demande l'abrogation du report de l'âge de départ. Et ce ne serait en fait que la première bande de cette partie de billard. Est-ce que, comme lors du vote sur la motion de censure, on peut dire que ce sont les députés, les Républicains qui ont les clés?
Oui, on peut le dire. Aujourd'hui, on a une situation relativement claire. Un gouvernement qui panique parce qu'il sait qu'il peut perdre si le texte arrive en séance le 8 juin. Et donc, il passe par la case quasi invisible pour les citoyens, qui est la case de la commission. Et au moment de la commission, il espère que le groupe Les Républicains lui permettra d'avoir une courte majorité pour supprimer l'article 1 qui prévoit l'abrogation de la réforme des retraites, pour obliger le groupe Liotte à le redéposer par voie d'amendement. Et comme ils ont du mal à démontrer qu'ils veulent utiliser l'article 40 sur une proposition de loi, parce que tout le monde l'a toujours fait, et que ça coûte de l'argent systématiquement, que des gens de la majorité l'ont fait, et qui n'ont pas utilisé cet article 40, pour éviter l'accusation de quasi-lecture arbitraire des choses, alors ils espèrent ardemment la complicité de quelques-uns pour pouvoir obliger le groupe à le redéposer par amendement, et là, que la présidente de l'Assemblée nous dise « Ah non, désolé, c'était un texte super, malheureusement ça va coûter de l'argent, c'est impossible ».
Alors, on va revenir sur donc ces autres bandes de la partie de billard, mais pour en rester un instant sur les LR, ils sont 8 députés Les Républicains au sein de la Commission des Affaires Sociales. Où en êtes-vous de vos décomptes et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez les voir tous individuellement, discuter avec eux, tenter de les convaincre?
On travaille avec tous les groupes parlementaires, mais évidemment, avec le groupe Les Républicains, ils sont 8 en commission, chacun est libre de son vote, et je veux dire ici clairement que je ne suis pas le tuteur légal des députés Les Républicains. Nous considérons que 3 sont opposés à la réforme initialement et ont voté la motion de censure et donc pourraient être de la partie. 3 autres, eux, sont plutôt favorables à la réforme, ils l'avaient exprimé. Il en reste 2 avec lesquels les uns et les autres discutent sans doute. Mais vous voyez, on est dans une situation de boutiquier, d'apothicaire, où chacun compte ses chevaux, chacun relit les règlements qu'il n'a jamais lu, chacun considère la règle qui n'a jamais existé, pour une seule et simple raison, c'est que c'est la panique du côté du gouvernement qui ne veut pas voter, cacher ce vote que je ne saurais voir, parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires et que dans l'Assemblée, clairement, il y a une majorité qui se dégagera donc, pour refuser la réforme des retraites.
Dans cette configuration, 3 votes pour la suppression de l'article 1, 3 votes contre et 2 abstentions, l'article 1 serait bel et bien supprimé.
Alors, s'il y a 2 abstentions, je ne suis pas sûr. Je pense que ça se jouera à une voix près, si tout le monde était présent. Mais on va attendre sereinement que les choses se déroulent.
Alors, comme je le disais, donc, nous sommes dans une partie de billard à plusieurs bandes. Et si cet article 1 est supprimé de votre proposition de loi, on peut dire qu'elle serait vidée de sa substance, évidemment, la proposition. Absolument. Par conséquent, vous n'auriez pas d'autre choix que de réintroduire cet article sous forme d'un amendement lors des débats. Et c'est à ce moment-là, en effet, que la présidente de l'Assemblée nationale pourrait invoquer l'article 40 de la Constitution, qui prévoit que les propositions et amendements des parlementaires ne sont pas recevables s'ils entraînent une diminution des recettes ou un alourdissement des charges publiques. Est-ce que ça n'est pas en effet le cas de votre proposition de loi ?
Mais comme toutes les propositions de loi qui sont déposées régulièrement à l'Assemblée nationale. Il y a un mois, nous avons parlé...
C'est-à-dire que tout s'accommode de l'article 40, finalement.
C'est pas que tout le monde s'accommode, c'est que depuis toujours, il a été écrit l'article 40, parce que sans doute qu'à l'époque du général de Gaulle, on considérait qu'il fallait un cadre budgétaire et éviter que les parlementaires ne soient d'affreux dépensiers. Depuis, reconnaissons qu'il n'y a pas eu besoin des parlementaires pour que le pays soit largement dépensier. Je ne rappellerai pas ici les chiffres de la dette publique et de l'endettement, mais de manière générale, nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que lorsqu'il s'agit du groupe de la majorité, lorsqu'il s'agit de Renaissance, du Modem, d'Horizon, ou même d'un autre groupe qui n'a aucune chance de voir un texte aboutir, tout le monde considère que ça, c'est acceptable en soi qu'il y ait des dépenses et que, comme toujours, elles sont gagées, c'est-à-dire qu'on prévoit des recettes en face qui sont parfois un peu rapides dans la manière de les
prendre. En l'occurrence, c'est une taxe sur les tabacs, ce qui est un grand classique.
Absolument, c'est ce que tout le monde fait toujours. Et là, pour une fois, on a une lecture à géométrie variable. Tiens, ce texte-là, il risque de passer en séance. Tiens, il risque d'être adopté. Tiens, nous, membres de la majorité, nous allons être battus. Trouvons les solutions pour éviter que ce vote ait lieu. C'est quand même une lecture quasi arbitraire de la Constitution. À géométrie variable, ce qui me semble absolument inacceptable, nous nous demandons une chose simple. Nous voulons apaiser le pays. Pour apaiser le pays, il faut qu'il y ait un vote. Cette situation de blocage, elle a été le fruit d'une décision du gouvernement d'activer le 49-3, alors que la Première ministre et les ministres avaient dit les uns après les autres, rassurez-vous sur ce texte majeur, évidemment nous voterons. Et au dernier moment, ils se sont dérobés. Cette fois-ci, nous devrons voter.
Depuis des semaines, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, ne paraissait pas disposée à avoir le mauvais rôle en invoquant l'article 40. Mais il semble que désormais, elle y soit prête. Comment vous expliquez ce changement de pied ?
Bon, je crois que l'autonomie de décision de Mme Braun-Pivet est tout à fait relative sur le sujet. Elle a permis le dépôt de la proposition de loi de manière très classique, à travers le bureau, puis elle n'a plus la main, le téléphone a dû sonner, les invitations, voire convocations, ont dû s'en suivre, et on a dû lui dire, Madame la Présidente, démerdez-vous. Faites en sorte que le vote n'ait pas lieu, sinon nous vous en tiendrons rigueur à vous personnellement. C'est vous qui devez être la gardienne de l'institution. Moi, je regrette cette vision des choses, je regrette cette manière de faire de la politique. Il manque de la noblesse, il manque de la modération, il manque de la pondération et il manque de l'écoute. Nous avons besoin, dans ce pays, plus que jamais d'écoute et de modération.
Alors, dans toutes ces grandes manœuvres, vous aussi, vous préparez vos armes. Et la dernière en date, c'est une saisine du Conseil constitutionnel au titre de l'article 24 qui dit que, c'est tout simple, le Parlement vote la loi. Or, vous dites que la réforme des retraites n'a pas été votée. C'est vrai qu'elle n'a pas été votée, mais elle a été adoptée régulièrement par le recours à l'article 49.3. Ça, c'est imparable, non ?
Pour essayer de discréditer la proposition de loi, on nous dit qu'elle a un caractère anticonstitutionnel. Ouais. Même tous ceux qui sont ministres, qui sont du gouvernement, Madame la Première ministre, estiment qu'ils ont une légitimité à dire si oui ou non une proposition de loi est anticonstitutionnelle. Nous, ce que nous disons, c'est rassurez-vous, si vous avez une crainte, nous allons assumer jusqu'au bout et nous irons au Conseil constitutionnel pour que ce texte soit examiné. Vous citiez l'article 24 sur le vote de la loi par le Parlement. Vous voyez bien que l'intérêt, c'est que le Conseil constitutionnel puisse se positionner. Mais là encore, on est dans une espèce d'arguments qui sont utilisés par les uns et les autres pour demander une chose simple. Est-ce que l'Assemblée nationale peut une fois voter sur un texte qui n'a pas fait l'objet de vote lors de la lecture, en première lecture, comme en retour après le Sénat ?
Le groupe Liotte est un petit groupe en termes de nombre, vous êtes 20, mais votre position particulière vous a mis au centre du jeu, en particulier sur ce dossier. Vous êtes l'un des seuls qui puisse réunir des votes venant de tous les bancs de l'Assemblée. Est-ce qu'il n'y a pas au sein de votre groupe une sorte d'ivresse de la lumière, d'ivresse de ce pouvoir nouveau ?
Je ne crois pas qu'on ait de pouvoir nouveau. La preuve, vous êtes en train de démontrer à quel point nous sommes corsetés aujourd'hui par les institutions et par ceux qui les tiennent. Non, je ne crois pas qu'il y ait de pouvoir nouveau. Par contre, il y a des parlementaires issus de différents bords politiques, de droite comme de gauche, des insulaires, des ultramarins, des gens qui ont pour fil rouge d'avoir été généralement élus locaux, qui savent ce qu'est le compromis, qui savent travailler ensemble et qui disent simplement, nous sommes dans une volonté d'être sérieux et utile pour la France, nous sommes bloqués, passons au vote et nous passerons naturellement à autre chose une fois que la clarification aura été faite. En face, pour l'instant, c'est la surdité et le mépris. J'espère que les choses changeront.
Merci Benjamin Saint-Huile. Bonne journée.
Merci à vous.